Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bienvenue dans votre émission Bien fait pour vous. Nous sommes en direct à vos côtés jusqu'à midi. Et ce matin, nous allons réfléchir ensemble à cette question essentielle qui nous a tous taraudés un jour dans différentes situations. Comment se motiver quand on ne l'est pas? D'ailleurs, est-ce que vous êtes motivée, vous, aujourd'hui,
oui,
Mélanie?
Oui, pour présenter cette émission, toujours. Mais parfois, comme tout le monde, je galère un peu à me mettre en route pour trouver la motivation, pour aller faire du sport ou même pour faire du rangement à la maison, alors qu'il y en a grandement besoin. Alors ça, vous ne connaissez pas, Julia, j'imagine. Enfin bref, on va passer à la loupe aujourd'hui ce qui fait la motivation et surtout comment l'activer quand elle nous fait défaut, pour nous, mais aussi pour les plus jeunes. Pour en parler, nous recevrons Yves-Alexandre Talman, il est psychologue et docteur en sciences naturelles, ainsi qu'Aurélie Calais, psychologue également et cofondatrice du cabinet Kids et Family.
Ensuite, à 11h45, ce sera notre séquence tendance avec notre binôme de chroniqueurs. Aujourd'hui, on va commencer avec Philippine Darblay. Elle a enquêté, la saison s'y prête, sur les auto-bronzants naturels. C'est vrai qu'on a de moins en moins envie de se mettre des crèmes et des substances chimiques sur la peau. Eh bien, elle va nous parler de ces nouvelles solutions pour avoir bonne mine, mais de façon plus green. Et puis, on va terminer l'émission avec la chronique d'Edouard Dutour du magazine Elle. Lui, il va nous faire découvrir les dernières tendances sexe, mais du côté masculin. Apparemment, nous a-t-il dit, ça y est, les hommes assument tout. Il va tout nous expliquer et surtout ce que ça signifie.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre magazine Bien-être Feel Good. Notre question du jour, je vous la rappelle, comment se motiver quand on ne l'est pas? Alors justement, lui, on ne sait pas comment il fait, mais on ne l'a jamais vu faillir, il est toujours au top de la motivation, quel que soit le sujet, quelle que soit la météo, c'est bien sûr Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde, je vous rassure, j'ai des techniques, je suis ce qu'on appelle un feignant mais hyperactif. En fait, je me lève très tôt tous les matins pour avoir plus de temps pour ne rien faire. Voilà, c'est un exercice. Je me mets des challenges à moi-même, je vous les donne le matin, pour sortir du lit plus rapidement quand c'est compliqué. Je m'invente des choses. Je me dis par exemple, tiens, si dans 3 minutes je suis sorti, demain matin je vais gagner au loto.
Ouais. Oh.
Et puis après je me dis, ouais, il y a combien, 30 millions, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que l'argent fait le bonheur? Et puis je reste au lit. Alors je fais partie de ces 7% des Français qui se considèrent eux-mêmes comme feignants. La flemme, on va en parler dans un instant. J'ai d'ailleurs rencontré, puisque c'est une maladie selon moi, j'ai rencontré un ancien feignant et ça se soigne.
Moi je suis un ancien feignant. Parce que de rien faire, ça m'épuisait. Du coup, maintenant, je fais plein de trucs.
Et c'est une très bonne réponse. J'ai trouvé ça
fabuleux. Beau témoignage.
Très beau témoignage. Alors, rassurez-vous, vous n'êtes pas responsable. C'est la société qui l'est depuis 200 ans. Voici l'histoire de la flemme. On nous invente des objets. Et tout a commencé, selon mes recherches, en 1892. Ah. En 1892, on invente l'escalator. Plus besoin de bouger dans l'escalier. C'était quand même dingue. Quelques années plus tard, en 1908, plus besoin de séduire, d'aller au resto, d'avoir une histoire d'amour. Puisque 1908, commercialisation de la poupée gonflable.
Oh.
1932, on va encore plus loin, les pailles. Plus besoin de ramener le verre à la bouche. Voilà, la paille le fait pour vous. En 1941, on est en pleine Seconde Guerre mondiale. On se dit, les Suisses sont neutres. Non, ils bossent en cachette, puisqu'un ingénieur suisse a inventé la chaussure à scratch. Vous avez la flemme de faire vos lacets, hop, deux velcro, c'est terminé. On continue en 1960 et Domino's Pizza qui lance la première livraison à domicile qu'on utilise évidemment partout aujourd'hui. On préfère attendre 40 minutes qu'un plat arrive froid plutôt que 5 minutes devant son micro-ondes alors qu'on pourrait manger chaud. Et puis enfin, je termine plus récemment et ça débarque partout, les assistants vocaux. Vous savez, le fameux « Dis Siri, joue Europe 1 ». Voilà, là j'ai lancé quelques machines normalement chez vous. Oh là là, les assistants vocaux qui ont clairement remplacé les stagiaires de 3e, qu'on embrasse très fort. Voilà, la flemme de continuer cette chronique, je vous laisse.
Ah merci, merci Clément
Lanoux. Quelle enquête, hein.
Ah oui, on va vous faire un petit mot d'excuse, hein, vous allez vous reposer. On
merci.
Va poursuivre à présent notre éclairage du jour sur les secrets de la motivation. Alors en studio aujourd'hui pour en parler, il y a déjà avec nous Yves-Alexandre Talman, bonjour.
Bonjour.
Ah, j'ai cru que vous n'étiez pas motivé. Vous êtes psychologue, docteur en sciences naturelles et l'auteur du livre Motivation au pluriel aux éditions Humaine Science. Avec nous également ce matin, Aurélie Calais, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes également psychologue, mais plutôt spécialisée dans les problèmes des enfants et vous avez cofondé le cabinet Kids et Family. On va commencer avec vous, Yves-Alexandre. Vous allez nous dire comment se motiver au quotidien, mais vos conseils seront valables pour tous les domaines de notre vie, j'espère, parce qu'il y a le travail, le sport, les tâches ménagères. Est-ce que ça va s'appliquer à tout? Est-ce que vos conseils, c'est pour toute notre vie?
Tout, absolument tout.
Mais vraiment? C'est quoi votre truc alors? Dites-le maintenant.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fonctionnement du cerveau. On a tous le même cerveau, quelque part. Donc, c'est toujours les mêmes mécanismes, même si chez chacun d'entre nous, ça s'implémente de façon unique, mais les structures cérébrales sont les mêmes. Le circuit de la récompense qui nous envoie des grands shoots de dopamine quand on se met en mouvement, ça, ben, c'est valable pour tout le monde.
Et donc, ce qui est valable pour tout le monde, c'est aussi d'avoir des phases de démotivation dans sa vie qui durent plus ou moins longtemps. Ça, c'est une des failles de notre cerveau et on a tous ce problème-là où il y a des gens qui sont jamais démotivés. Comment ça fonctionne ?
Mais peut-être que c'est une question de langage. Parce que vous dites démotivé, j'ai plutôt l'impression que vous signifiez manque d'envie. Autrement dit, le circuit de la récompense, ce fameux circuit de la récompense qui travaille avec cette dopamine, lui, peut être épuisé, quelque part. On le sait, chez les personnes, par exemple, addictes, hein, il faut plus de substances pour avoir le même effet. Donc on a ces effets ou ces conséquences d'épuisement. On peut très bien ne pas avoir envie, mais se motiver. En fait, c'est là toute la subtilité de l'affaire.
Ouais, mais en plus, si on a envie, c'est encore mieux, j'imagine. Là, c'est le top de la motivation ou pas ?
C'est vous qui disiez que certaines tâches ne vous feront jamais envie.
C'est
moi, remplir ma déclaration d'impôt, faire les rangements, faire les nettoyages.
Vous aimez ça ?
Pas du tout.
Moi non plus. Hein.
Mais je le fais. Sans envie. Et c'est là toute la subtilité. Vous savez, je travaille avec des étudiants, que ce soit au niveau universitaire, pré-universitaire, ils me disent « je suis démotivé ». C'est pas ça la question. C'est pas que tout d'un coup, je suis à mon bureau ou dans mon lit en train de regarder une série sur mon smartphone, et puis que, par je ne sais pas quel miracle, tout d'un coup, hop, j'ai envie de faire des révisions. Ça n'arrive pas. Mais par contre, je peux me motiver alors même que je n'ai pas envie.
Oh, c'est chouette ça. Aurélie, les enfants, les ados, est-ce qu'ils n'auraient pas par hasard un peu plus de mal à se motiver ? Je pense notamment aux adolescents. Franchement, c'est vrai qu'ils sont parfois un peu mollassons. Enfin, c'est la sensation qu'on a, non ?
Plus souvent sur la journée que nous. Quoi.
Mais c'est peut-être un problème de cerveau. Peut-être qu'ils n'ont pas assez...
Ils ont tous les changements physiologiques qui font que, en fait, pour respecter leur rythme, ils devraient plutôt se coucher tard et se lever tard et qu'on leur impose un rythme où déjà ils manquent de sommeil. C'est vrai que les ados, c'est un peu subi la vie quand on les regarde quand même. On a l'impression que tout est... D'ailleurs, ils disent flemme.
Ouais.
Ils ne font même pas de phrase.
Ils disent relou, ouais.
Yves-Alexandre, chez les ados, c'est pourquoi ce cerveau, il n'est pas terminé ou on les met en décalage horaire à cause de la société ? Quel est le problème chez eux ?
En tout cas, une des questions qui est en lien avec ce qui vient d'être dit sur le jet lag, hein, au niveau de l'endormissement et du réveil, c'est que le circuit de la récompense et le système limbique du cerveau, lui, il est parfaitement opérationnel, donc il turbine à plein régime, mais le cortex préfrontal, la partie qui va, on va dire, être plus active dans le self-control, l'anticipation et tout ça, ça prend encore un moment avant d'être finalisé, myélinisé, comme on dit.
L'anticipation.
25 ans.
Donc quand on dit qu'ils ne sont pas finis, c'est vrai, ils ne sont pas tout à fait finis. Quoi.
C'est une expression, mais ça a du sens de le dire.
Et c'est quoi qui n'est pas fini ? Vous avez dit, c'est devant,
le cortex préfrontal, notamment la partie orbitofrontale, qui est responsable de l'anticipation.
Mais oui, ils anticipent
rien.
Vous direz
ça à votre fils,
c'est
d'un peu de ton cortex préfrontal.
Mais c'est vrai, il n'anticipe rien du tout. Et est-ce que ce n'est pas plus valable, d'ailleurs, chez les garçons ? Est-ce qu'ils ne se finissent pas plus tard ? Non, mais c'est vrai, je crois que le cerveau des garçons est fini plus tard, non ?
Pas à ma connaissance.
Ah, d'accord. C'est
pas ça l'explication. Voilà. Bon, merci à tous les deux. Vous restez avec nous et vous aussi. Restez bien à l'écoute d'Europe 1, car dans Bienfait pour vous, on est très motivés, filles et garçons, ce matin pour nous aider à en finir avec la procrastination, le manque d'entrain, voire même la perte de sens. C'est un sujet qui a été étudié désormais par les sciences et on va vous en livrer quelques clés très utiles pour vous dans votre quotidien dans un instant. A tout de suite sur Europe.
Europe 1, Bienfait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. Et ce matin, on vous pose cette question. Comment se motiver quand on ne l'est pas ? Pour nous éclairer sur le sujet, ils sont toujours en studio avec nous. Aurélie Calais, psychologue et cofondatrice du cabinet Kids et Family. Et puis avec nous également, Yves-Alexandre Talman, psychologue aussi, docteur en sciences naturelles et l'auteur du livre Motivation aux éditions Humaines Sciences. D'ailleurs, Yves-Alexandre, votre titre, il est au pluriel, hein, Motivation avec un S à la fin. Donc ça signifie finalement qu'il y en aurait plus. Si oui, combien ?
Alors, on pourrait parler de levier de motivation. Vous l'avez cité, hein, les envies. J'ai envie de, mais parfois on n'a pas envie et on trouve d'autres leviers pour se motiver. Par exemple, ça fait sens pour moi ou je me sens utile. Je fais une action pour son utilité ou parfois c'est pour une récompense. Je le fais parce que j'obtiendrai une récompense externe, artificielle. Ou parfois aussi, je le fais pour éviter un préjudice. Mmh. En fait, on peut décliner ces leviers sur le mot intérêt. Hein, on peut dire, j'ai de l'intérêt pour, je sais pas, le piano, la musique, les arts. J'ai un intérêt à le faire, c'est-à-dire que je vais obtenir quelque chose. Ou bien j'ai intérêt à le faire, sinon.
Ah, oui,
et ça se décline comme ça.
Donc il y a des leviers de motivation, mais est-ce qu'il y en a un qui est plus puissant que les autres pour arriver à accomplir des choses quand on a des objectifs ?
Alors, il y en a un qui est plus agréable et auquel on pense en premier, c'est l'envie. Et du reste, c'est celui qui, dans notre société, est exacerbé et exploité au maximum. On le voit à travers la publicité, le marketing, etc. Mais ce n'est pas le plus efficace. Les données empiriques, maintenant, nous montrent que ce n'est pas le plus efficace. Ce qui est le plus efficace, c'est évidemment le fait de pouvoir anticiper, projeter, voir des objectifs lointains et persévérer pour les obtenir. Autrement dit, les leviers de nature cognitive.
D'accord.
Pas affectif.
Ah ok, et Alexandre vous dit dans le livre que notre cerveau calcule en fait notre motivation. Qu'est-ce qu'il prend en compte ce cerveau pour savoir à quel niveau de motivation on est?
Alors,
quand calcul, il se fait vite, hein, je crois, c'est instantané.
Il se fait vite. Quand on parle de calcul, donc on se réfère à l'économie comportementale, hein, cette branche qui a vraiment étudié ce type de questions. Et puis on pourrait dire que c'est simplement une balance entre les bénéfices et les coûts. Qu'est-ce que ça va m'apporter par rapport à qu'est-ce que ça me coûte? Et lorsque la balance, elle penche du côté des bénéfices, ça engage l'action, ou ça a plus de chances d'engager l'action. Par contre, lorsqu'on a plus d'inconvénients ou de coûts que de bénéfices, alors on procrastine, on temporise.
Exactement. Et le cerveau, il fait le calcul très très vite. Hein. C'est action-réaction.
Chez vous, ça marche bien, je crois.
Oui, ça marche très bien, moi. Alors justement, quand on manque de motivation, qu'est-ce qu'on fait dans notre cerveau pour changer justement la donne? Pour que la balance change de camp, quoi.
Bah, ça dépend des actions que l'on vise. Pourquoi est-ce que vous aimeriez vous motiver, par exemple?
Quel est mon levier, vous voulez dire?
Non, donnez-moi un exemple où vous manquez de motivation.
Moi, le sport. C'est la bouffe. Arrêtez de manger tout le temps.
De grignoter.
Je m'attendais quand même à ces réponses, parce qu'habituellement, quand il s'agit de se motiver parce qu'on manque de motivation, les gens vont dire faire de l'activité physique, manger sainement, étudier, travailler. Tous les comportements, quelque part, qui exigent un effort, un investissement, mais qui n'ont pas de gratification immédiate. Personne ne doit se motiver pour aller boire un verre avec ses amis, pour regarder un épisode de sa série favorite. Ce genre de choses, ça vient tout seul parce que c'est le circuit des envies qui travaille.
Et du plaisir alors, du coup, peut-être aussi.
Oui, mais il faut sa ration de plaisir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les désirs, les envies, ce qu'on appelle motivation intrinsèque, c'est pas autant puissant qu'on nous a fait croire que ça l'était, parce que c'est peu manœuvrable. Vous savez, moi j'ai essayé avec mon fils qui est maintenant adulte de lui donner envie de manger des légumes. Je n'ai pas réussi. Par contre, il les mangeait, mais pour sa santé. C'était une décision du préfrontal et pas une décision du limbique. Alors, peut-être qu'après, il trouvera du plaisir à manger certains légumes, mais ça, ça lui appartient.
Donc, il faut muscler son préfrontal.
Alors, peut-être qu'on n'a pas le détail exactement, Aurélie, pour muscler le préfrontal, mais comment on peut entretenir ça, peut-être dès le plus jeune âge, la motivation chez les petits? Est-ce que vous avez des astuces du quotidien qu'on peut mettre en place très jeune, peut-être pour les garder motivés, ces enfants?
Après, je pense qu'il y a quand même un lien aussi entre la motivation et le sens de l'effort, le goût de l'effort. Et c'est vrai qu'on constate qu'il y a de plus en plus d'enfants petits qui sont évidemment dans la notion de plaisir immédiat, ce qui va avec leur âge, mais qui ont énormément de mal à ne pas être dans l'immédiateté. Et du coup, c'est à nous, en tant que parents petits, de leur apprendre des mini-frustrations, d'attendre, pour y arriver, je ne vais pas tout faire à ta place. Ça, c'est vachement important.
Vous pensez que nous, les parents, on donne trop vite satisfaction à nos enfants et du coup, c'est pour ça qu'ils perdent le goût de l'effort?
En tout cas, je pense qu'on ne leur développe pas assez.
Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas évident. On a envie de leur faire plaisir, effectivement, mais on leur coupe un peu les ailes et la motivation avec ça.
Ou c'est pour leur faire plaisir ou parce qu'en fait, c'est plus simple. Si je fais, ça va plus vite. Si je fais, il n'y a pas de crise. Et en fait, ça ne leur rend pas service.
Ouais. Je crois que j'ai un peu trop fait ça. Je vais essayer de voir si on peut revenir encore en arrière.
Yves Alexandre, ce qui nous motive aussi, c'est de voir parfois qu'on progresse dans quelque chose. Comment on l'intègre, ça, par exemple, dans notre quotidien? On note ses progrès, je ne sais pas, sur un calepin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On utilise des applis. Qu'est-ce que vous nous conseillez dans la vie quotidienne?
Alors, vous parliez de sport.
Par exemple, oui.
Ou de régime, de bouffe.
Un des éléments qui marche bien avec le sport, ce sont les trackers d'activité, comme on dit, hein, ces bracelets connectés. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec ça, ne serait-ce que les 10 000 pas par jour, de savoir, avec un feedback, une rétroaction chiffrée, où on en est. Moi, j'entends des personnes qui me disent « je vais encore aller faire le tour du quartier parce que je ne suis pas à mes 10 000 pas ».
Ça, je le fais depuis très longtemps, moi, et ça m'a motivé à un moment donné. Mais est-ce que je dois acheter un deuxième bracelet parce que je voudrais passer à l'étape au-dessus, qui est « je vais quand même aller faire un peu de sport en plus ».
12 000 pas.
J'en fais 10. Elle en fait 10 000 tous les jours.
Vous restez là?
Ça remplace pas le sport. Il faudrait qu'elle se bouge plus, Mélanie. Non, mais attendez, on peut se dire la vérité. Il faut qu'elle se bouge plus et moi, il faut que j'arrête de bouffer tout le temps. Mais comment on fait pour arrêter de manger tout le temps, par exemple? Qu'est-ce que je dois activer dans mon cerveau pour qu'il comprenne?
Rien.
Ok, c'est ce que je fais.
Parce que vous avez déjà compris, quelque part, vous savez quels sont les inconvénients de grignoter entre les repas, toute la prévention a été faite, ça ne suffit pas. Beaucoup de gens pensent qu'il faut donner une explication et que ce sera suffisant. Mais là, je vous le donne en mille, si on prend le réchauffement climatique, on sait tous qu'on va vers la catastrophe. On le sait, on est conscient, mais ce n'est pas pour autant qu'on est suffisamment motivé à changer nos comportements. Pourquoi ? Parce que ça a un coût. Ça va nous coûter quelque chose de renoncer aux voitures, de renoncer à notre voyage en avion. Et c'est là que ça va se jouer.
Yves Alexandre, il y a une notion sur laquelle vous insistez dans le livre, c'est la notion de jeu qui est importante dans la motivation. Et en plus, elle est scientifiquement prouvée comme étant efficace. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne.
Alors, on parle de ludification ou de gamification, si on prend le terme anglais. Ça consiste à incorporer des éléments de jeu dans une activité qui est plutôt fastidieuse, ce que les parents connaissent bien aussi, et ce que certains éducateurs, ce que certains enseignants essayent de faire. Mais attention, il y a tout de suite une limite parce que c'est un peu tromper le cerveau. Quelque part, si je fais mon activité parce que j'ai incorporé des éléments de jeu, par exemple un élément de compétition ou bien une mesure de progression, ça me dit en soi que l'activité elle-même n'est pas suffisamment gratifiante. Donc attention avec ces systèmes-là.
Oui, et Aurélie, est-ce que, je ne sais pas, j'imagine que la ludification, tout ça, c'est quelque chose qui est important pour les enfants. Ils apprennent mieux, non, quand c'est ludique ?
Oui, c'est sûr qu'ils apprennent mieux parce que ça, c'est moins une contrainte. Mais effectivement, je suis d'accord avec ce que vous dites, si on ne fait que du jeu tout le temps, par exemple ceux qui vont être plus dans les écoles Montessori en maternelle, ce qui est super, franchement, d'ailleurs, on voit avec Céline Alvarez que les enfants avaient avancé plus vite dans plein d'apprentissages. En revanche, après, si on les remet dans un milieu scolaire traditionnel, en CP, il va falloir être assis 8 heures par jour, tu n'auras pas le ballon, tu ne vas pas pouvoir faire que ce que tu as envie.
Ça n'apprend pas assez la frustration, selon vous ?
En fait, il faut toujours un juste milieu. Je pense que plus ils sont petits, plus on passe par le jeu, pas trop de frustration, on essaye d'identifier les besoins, les envies. Après, je pense que plus ils grandissent, plus il faut qu'on différencie les envies des besoins. En gros, les besoins, je réponds, les envies, je ne réponds pas à tout.
À partir de quoi ? De 4-5 ans, ça change
à peu près, c'est ça ? À partir de 4 ans, c'est bien de le faire quand même. Et après, pareil, tu as envie de t'habiller tout seul. Ça, c'est pas un bon exemple.
Mais d'une glace.
Oui, puis leur
montrer
que...
Mais t'en as déjà mangé 4, alors on va s'arrêter là.
Oui, puis leur montrer qu'en fait, dans la vie, en fait, on n'a pas les trucs sans effort. Et que faut se donner un petit peu de mal. Plus on est petit, c'est une petite difficulté, mais que sinon, ils ne comprennent pas après.
Tu veux une glace, tu vas la chercher toi-même, parce que moi c'est « Maman, je veux une glace !»
Ah, mais ça, c'est un bon truc, par exemple.
Ouais, voilà, j'ai tout loupé, merci. Alors très bien, restez avec nous, on n'en a pas fini avec notre sujet du jour. Comment trouver ou retrouver les clés de la motivation, quels que soient nos objectifs ? On peut avoir besoin de plus d'entrain pour le boulot, les cours, mais aussi en amour, parfois. On va y revenir dans quelques toutes petites minutes, alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Motivé, il faut rester motivé. Motivé, il faut se motiver.
Zebda, ils étaient motivés, en tout cas nous aussi. Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Notre question du jour, la voici. Comment se motiver quand on ne l'est pas ? Car la démotivation n'est pas une fatalité. On vous explique tout avec nos invités. Aurélie Calais, psychologue et cofondatrice du cabinet Kids et Family, ainsi que Yves-Alexandre Talman, psychologue et docteur en sciences naturelles. Alors Yves-Alexandre, on a parlé, on va dire, du premier degré de motivation, jusque-là le plus facile. Mais si on sait, donc on a dit qu'on a par exemple une tâche longue, un défi peut-être même pas agréable à accomplir, mais qu'il faut le faire, du type arrêter de fumer par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver justement ? Quels sont là les leviers qu'il va falloir activer pour y parvenir ?
Je partage mon arme secrète avec vous si vous êtes
génial.
D'accord. Donc c'est une sorte de tour de la motivation qu'on est en train de gravir. On a d'abord travaillé sur les envies. Mais ok, certaines tâches ne nous font pas envie, donc ce levier-là, on va peut-être le laisser de côté. Après, on a le levier cognitif, au niveau de la pensée. Et là, les premières choses auxquelles on pense, bien évidemment, c'est le sens de nos actions et l'utilité. Je le fais parce que ça a un sens, je le fais parce que c'est utile, notamment à la communauté, et ça apporte quelque chose. Mais parfois, on s'arrête là. si vous prenez arrêter de fumer, c'est clair qu'on va pas aller plus loin que ça, parce qu'on sait pourquoi on devrait arrêter de fumer. Donc on passe sur un levier qui est plus contextuel, autrement dit qui va faire en sorte d'aménager notre environnement pour que l'on atteigne notre objectif. Alors, un petit détour par la théorie quand même, notre cerveau a une fâcheuse tendance à privilégier les récompenses immédiates. On dit qu'il survalorise les récompenses imminentes au détriment des récompenses lointaines. Donc, entre un tien et deux, tu l'auras, même si le deux, tu l'auras, il est deux fois plus grand.
Il veut le un tien.
C'est la fameuse expérience des marshmallows, hein, ou peut-être vous avez déjà vu ça sur Internet, des enfants qui doivent résister à un bonbon qui est placé devant eux, avec l'espoir d'en avoir un deuxième, ou la promesse d'en avoir un deuxième, s'ils tiennent les 10 minutes. Et c'est extrêmement difficile, surtout en âge préscolaire.
Surtout à 6 ans, ouais.
Mais ce qu'on sait, c'est que pour les adultes, ça marche aussi. Ce système-là.
Mais ça marche pas avec la clope. Genre, j'en fume pas aujourd'hui, mais j'en fumerai deux fois plus demain. Ça marche pas.
Ça marche pas parce que justement, la récompense lointaine, c'est la santé. C'est éviter une maladie douloureuse, grave.
Et tout l'argent économisé, moi, je voyais ça aussi.
Ouais, d'accord. Mais n'empêche qu'au moment où je vais allumer ma cigarette, là, je vais avoir le plaisir immédiat de la nicotine directement. Et le délai joue un rôle tout à fait important dans cette question-là. Et donc, on sait que notre cerveau, à un moment donné, va privilégier, quand il a le choix, une récompense petite, mais immédiate, à une récompense grande, mais lointaine. Pour mes étudiants, ça va être faire une partie de jeu ou consulter les réseaux sociaux sur leur téléphone. Ça, c'est dans l'immédiat, plutôt que de réviser pour un diplôme qui arrivera dans quelques années.
Donc, il faut penser loin.
Ça ne suffit pas de penser loin. Justement, il faut contrecarrer l'effet du délai.
Comment alors dit,
Qui va arrêter de fumer ici?
Non, on a déjà réussi.
Tu vas arrêter de manger, moi.
Arrêtez de manger.
Vous voulez arrêter de manger?
De grignoter. Manger, c'est bon pour la santé quand même.
Hein, c'est vrai. Alors, si vous voulez, devant toutes les auditrices et tous les auditeurs, je fais un deal avec vous.
Oui.
Je peux vous assurer que vous allez arrêter de grignoter si vous dealez avec moi, si vous faites le pacte avec moi, maintenant.
Okay.
Mais par contre, il faudra juste nous mettre sur pause un petit moment parce qu'on va aller à la banque.
Vous et moi?
Vous
voulez que je vous paye?
Exactement.
Non, c'est pas vrai, je vous donne combien pour ça?
Vous voulez arrêter de grignoter à combien?
Un truc qui me coûte vraiment cher?
Ouais.
Allez, 1000 euros. 1000 euros, ouais.
D'accord. Si elle me dit 1000 euros, ça veut dire qu'elle est prête à perdre ses 1000 euros. Moi, je vous dis 10 000 euros. Mais ça passe comme ça. On va à la banque, maintenant. Oula,
je vous laisse.
Moi, je ne veux pas perdre mon fric.
À 10 000, je grignote plus.
Vous avez compris comment ça marche. Ah ouais. On met ça dans une enveloppe. Vous me signez que cet argent est à moi. Si vous grignotez entre les repas, on peut fixer un délai, par exemple. Dans les 6 mois qui suivent, au moindre grignotage entre les repas, vous perdez instantanément 10 000 euros.
Okay.
Julia, l'œil perçant, là, se dit, est-ce que je signe ce truc-là ou pas? Alors, Julia, préparez votre enveloppe. Pendant ce temps, je vais poser une question à Aurélie Cadet. Est-ce que du côté des enfants, ça peut marcher? Est-ce que c'est la même chose? Leur promettre peut-être une récompense pour les motiver ou les challenger comme ça? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne astuce?
En tout cas, on voit qu'effectivement, ça marche très bien sur les adultes. Donc, évidemment que ça marche hyper bien sur les enfants. On en parlait encore plus avec les enfants qui ont un trouble du déficit de l'attention, où on sait que c'est... En fait, c'est ça dont ils ont besoin pour ils marchent hyper à la récompense.
Mais ça veut dire on peut leur mettre de l'argent contre de bonnes notes?
Non.
Une activité en famille, un truc qui leur fait plaisir.
Mais
quoi.
Tu peux trouver un petit truc cool pour chaque mission faite. T'as le droit à 10 minutes de plus de ton jeu vidéo.
Ah, pas mal.
Moi, si tu commences à sortir les sous, t'es mal.
Mais non, mais moi j'ai payé mon fils pour faire des tâches ménagères pendant le confinement. Est-ce que ça, c'était pas mal en termes de motivation?
Parce qu'il les a faites.
Oui, mais pas longtemps, ça n'a pas tenu longtemps.
C'est comment on l'explique, Yves-Alexandre, que ça n'avait pas marché longtemps, le Julia qui paye son fils pour passer l'aspirateur?
Parce qu'à un moment donné, elle ne le payait plus.
Non, c'est que je ne le payais pas assez cher, je pense.
Oui, c'est ça le problème des récompenses financières. C'est que ça nous permet de quantifier l'effort. Vous imaginez, c'est comme si je vais aider un ami à déménager et puis à la fin, il me donne 50 euros. Puis tout, tout d'un coup, je vais dire, mais ça ne joue pas parce que ça vaut plus que ça, mon travail de toute la journée. Par contre, si il me paye l'apéro, ça c'est tout autre chose parce qu'on est dans la récompense
conviviale,
symbolique.
Et c'est vrai que même ce truc de récompense où nous, pour les enfants, on peut faire pas mal de tableaux de renforcement positif avec des gommettes pour des objectifs, spontanément. Alors évidemment, c'est fait dans le cadre d'un entretien, on a étudié la situation, mais il y a beaucoup de parents qui vont dire, ok, quand il a fini ses objectifs, je vais lui acheter un super jouet. Et en fait, le truc du cadeau matériel, en fait, l'enfant, une fois qu'il a joué avec, il peut vous rendre le cadeau, mais les efforts qui vont avec aussi. Or, de dire, on fait un resto de grand, valorisé, et qu'il soit fier de lui.
On a une question de Aude sur Instagram qui nous dit que, bon, elle trouve l'émission très intéressante. Merci Aude. Elle dit qu'elle a un petit garçon de 5 ans en grande section qui n'est pas du tout motivé par l'école. Il chouine le matin, il invente que la maîtresse est en grève pour ne pas y aller. Il est malin en tout cas. Comment le motiver, surtout que l'année prochaine c'est le CP. Aurélie, un petit mot pour lui?
Bah, moi je trouve qu'après, en fait, un manque de motivation chez
jeune,
un petit,
là, pour pas être motivé
ouais,
à la maternelle,
en fait, il faut essayer de questionner. Est-ce que c'est, enfin, je trouve, voilà, en tant que psy, moi je peux pas vous dire qu'il faut pas essayer de trouver les origines forcément, mais ça peut être lié à un manque de confiance en lui. Peut-être que c'est un enfant qui est trop perfectionniste et qui a la peur de l'échec et qui se met, voilà, on commence à lui parler du CP parce que c'est ce qu'ils font au troisième trimestre. Là, vous savez, profiter parce que l'année prochaine, enfin,
ça va pas rigoler.
Et ça, peut-être que ça commence à l'angoisser et qu'il se dit, moi, en fait, je veux pas y aller chez les grands. Ça a l'air d'être
j'ai
pas
j'ai
cool,
rien
votre
demandé,
truc,
moi. Ouais. Alors, Aurélie, à l'inverse, est-ce que punir un enfant ou un adolescent qui n'aurait pas fait son travail, pas fait ce qu'on lui a demandé de faire, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça peut le motiver?
Je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a, enfin, et après ça, on n'a pas tous les mêmes ados. Il y a des parents qui vont avoir des ados qui arrivent à, enfin, qui sont scolaires, qui aiment travailler, donc ils n'ont pas vraiment forcément besoin d'être hyper motivés, parce que juste d'avoir une bonne note ou d'être bon élève, en fait, ça les fait se sentir bien. Donc eux, c'est plutôt fastoche, j'ai envie de dire, par rapport à l'école. Il y en a d'autres qui, sur le principe, mais comme pour arrêter de fumer, aimeraient bien avoir des bonnes notes, mais l'effort de s'y mettre, enfin se mettre à la tâche, est hyper compliqué pour eux. Ce qu'il faut, c'est essayer, je pense, de les aider, mais c'est un petit peu en amont de tout ça, dans l'organisation du travail, d'apprendre à avoir une régularité. Il y a beaucoup de parents, c'est vrai, qui rentrent hyper tard et qu'on n'est pas tellement derrière les devoirs. À l'étude, ils ne les font pas toujours. Et puis, ça tient pour ceux qui ont des facilités un moment. Puis, ils arrivent parfois collège où on leur dit, en fait, là, ça suffit plus ce que tu fais.
Pour finir, Yves-Alexandre, est-ce que la motivation, finalement, c'est pas une question d'habitude, quelque part? On peut finir, à force de faire tous les jours un truc qu'on n'aime pas forcément, bah, par le faire, même si c'est un peu rebutant, même si, en tout cas, on finit par le faire de façon mécanique. Au bout de combien de temps on finit par ne plus y penser et arriver à être motivé naturellement?
Oh, ben, quelques répétitions peuvent suffire, mais... c'est encore pas suffisant d'après ce que l'on a vu, parce que du moment où j'ai une bonne habitude mais qui exige un certain effort, au bout d'un moment, le comportement qui nécessite moins d'effort va revenir. Vous savez, on parle du renversement des préférences. Autrement dit, cette aptitude ou cette préférence que notre cerveau va avoir pour les petites récompenses immédiates versus les grandes récompenses mais lointaines qui exigent des efforts, c'est le fonctionnement de notre cerveau. C'est ce qu'explique la procrastination aussi. Et ça, on ne s'en débarrasse
jamais.
C'est un petit peu comme le diabète. On prendra le traitement à vie.
C'est chronique, en fait.
Et c'est chronique. Et ce qu'on peut faire, c'est justement ce que je préconisais tout à l'heure, des pré-engagements, c'est-à-dire prendre des décisions qui nous lient avant. Un petit peu comme on s'obligerait à mettre de l'argent de côté pour notre retraite, avec l'impossibilité d'aller chercher dans le compte. Mmh. C'est ça. Du moment où on a pris ce type de décision à l'avance, vous parliez de manger, si par exemple vous décidez à l'avance de commander la salade pour le repas de midi, plutôt que de vous laisser tenter par les bonnes odeurs au moment où vous entrez dans le restaurant, la question va être beaucoup plus facile.
Ok, je vous ai fait un chèque. Merci beaucoup à tous les deux pour cet entretien.
Moi aussi, je peux faire un petit contrat si tu veux.
on signe des trucs entre nous. Hein. Merci beaucoup en tout cas.
Merci à tous les deux. La démotivation n'est pas une fatalité. On vous a donné des pistes à suivre. En tout cas, pour en savoir plus, je rappelle le livre d'Yves-Alexandre, Motivation au pluriel, paru chez Humaine Science.
Eh bien, Mélanie, maintenant, on va basculer vers la séquence tendance de Bienfait pour vous, dans laquelle Philippine Darblay va nous présenter les dernières nouveautés pour avoir un teint hâlé parfait, mais uniquement grâce à des auto-bronzants d'un tout nouveau genre, tout sera naturel. Et puis avec Edouard Dutour, on verra quelles sont les dernières tendances sexe, mais du côté masculin. Apparemment, ça y est, les hommes assument tout. Il va nous expliquer ce que ça veut dire. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous êtes de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être, dans lequel on tente de vous faciliter le quotidien tous les matins de 11h à midi en direct. Et c'est notre partie consacrée aux tendances qui débute à présent. D'abord, je me tourne vers vous, Edouard Dutour, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour à tous.
Alors, on va parler de quoi aujourd'hui, petit coquinou?
On va parler de sexualité, mais pas de la vôtre, mesdames, parce qu'il n'y a que des filles là, autour, devant vos micros. Mais il y a des garçons en régie.
Et il y en a qui nous écoutent aussi, des garçons.
Il y en a qui nous écoutent beaucoup, c'est pour ça que c'est votre tour, messieurs, de libérer la parole. Et on va faire un peu le
puis
tour
nous,
de la
les
question.
Femmes, la sexualité des hommes, ça nous intéresse. Merci beaucoup.
De toute façon, c'est ensemble que c'est mieux. Hein.
Bah oui. Parfois, nous sommes concernés, nous aussi. Merci, Edouard. On vous retrouve dans un instant, car tout de suite, c'est Philippine Darblay qui va prendre le micro. Bonjour, Philippine.
Bonjour.
C'est la période, on a tous envie d'un joli teint, mais les produits aux effets bronzants peuvent franchement faire peur. Entre les résultats et les compositions, je crois que vous avez déniché, c'est ça, Philippine, quelques produits éco-responsables pour un effet bonne mine naturelle.
Oui, bah, effectivement.
effectivement, c'est la période où la tendance bronzage revient au galop. Mais il y a beaucoup de nouveautés, figurez-vous, notamment dans le monde de la beauté naturelle. Je dirais que la vraie tendance cette année, c'est d'afficher un teint subtilement pailleté. Alors, on l'a vu un peu partout, hein, sur les réseaux, à Cannes, peut-être que vous avez vu, Julia, deux, trois jeunes filles. On l'a même vu sur notre iconique Iris Mittenard, ou même sur Romy, qui est une influenceuse à plus d'un million et demi d'abonnés sur Instagram.
Mais alors, Philippine, c'est quoi leur secret? On veut tout savoir.
Ben, on est là pour ça, et en plus, j'en ai avec moi en régie, en studio, pardon. En fait, elles utilisent ce qu'on appelle des concentrés illuminateurs. En fait, ce sont des liquides très finement pailletés, colorés à base de pigments naturels. On le met sur le visage, un peu sur le corps aussi, et ça permet d'obtenir un glow. Glow, en anglais, ça veut dire éclat, donc comme un coup d'éclat, un coup de lumière.
Génial.
Je vais vous montrer après. J'ai le sérum bronzant et illuminateur de la marque Freshly Cosmetics, qui est quand même suivi par plus de 800 000 personnes sur Instagram. Hein, donc, elle a conquis déjà pas mal de personnes. Et pour mieux comprendre ce sérum, je vous propose d'écouter Inès Garcia, qui est en charge de l'influencer de la presse pour la marque en France.
C'est vrai que c'est un produit qui plaît beaucoup, surtout pour son effet glamour, qui donne beaucoup de vitalité au visage. C'est quelque chose de très recherché cette année, et surtout avec l'arrivée des beaux jours. C'est aussi très facile à appliquer, quelques gouttes sur la main, et on l'applique comme un sérum, et on a un effet immédiat sur le visage. Et puis ensuite, le côté pailleté aussi, qui est apporté grâce au mica naturel, qui au contraire des paillettes, ne sont pas issues de l'industrie pétrolière et ne sont pas fabriquées avec du plastique.
J'imagine qu'il faut en mettre un peu quand même. Hein.
Oui, bah alors évidemment.
Un peu, je veux dire, parce que là j'ai fait ma main et j'ai une main très bronzée, l'autre moins quand même.
Mais ça reste discret,
c'est
non ?
C'est joli, c'est joli.
C'est vrai que l'idée n'est pas de rayonner de mille feux, mais de l'utiliser avec parcimonie. Et je vous propose d'écouter maintenant les conseils d'Héloïse, qui est une utilisatrice fan du produit.
Alors moi, ce que j'aime chez le Sunrise Radiance, c'est qu'il soit très modulable et que je puisse l'appliquer comme je veux selon le rendu que je souhaite avoir pour la journée. Notamment, j'aime appliquer quelques petites gouttes dans mon fond de teint pour le retour des beaux jours, pour avoir un effet sun-kissed, et ça me permet d'éviter d'acheter un fond de teint plus foncé.
Et voilà, alors on peut aussi le mettre sur les pommettes. Bah moi, oui, c'est ce que j'ai fait ce matin, et sur le nez, ça donne un petit effet. Voilà,
c'est ça,
on
a ce côté illuminateur sur votre visage. Hein.
Donc c'est un produit qu'on retrouve à 35€, et puis sur une gamme assez similaire, on le retrouve d'ailleurs chez PAI, P-A-I, qui est une autre marque éco-responsable, sous le nom de The Impossible Glow, à 29€, il y a trois teintes. Voilà.
Okay. Si on a une peau claire, par contre, comment on fait? Parce que moi, c'est vrai que là, j'ai l'impression que c'est un peu trop bronzé pour moi.
C'est vrai qu'il faut un peu adapté, et si on a une peau très claire, bah Inès, elle suggère d'appliquer quelques jours avant leur best-seller, qui est un auto-bronzant progressif, et là c'est une autre vraiment très grosse tendance dans le monde du naturel.
Ah d'accord, donc c'est les auto-bronzants orange, tout ça c'est fini.
Ah oui, bah,
parce que moi j'avais la trace là au niveau du cou.
J'allais dire, on en a fait les frais, les couleurs, les odeurs d'ailleurs assez désagréables, et les compositions, bah, honnêtement, pour les avoir tous testés avant de vous en parler aujourd'hui, j'ai été très surprise, le résultat en fait est, bah, comme son nom l'indique, progressif. Et d'ailleurs, dans le même esprit, on retrouve un sérum auto-bronzant progressif de chez Typology, qui est une marque green française cette fois. Voilà.
Alors pourquoi est-ce qu'on obtiendrait un résultat plus naturel?
Mais c'est vrai, on se demande pourquoi est-ce que, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on aurait plus confiance en le résultat de ces types de produits par rapport à d'autres? Eh bien en fait, c'est simplement dû à la manière dont on utilise le DHA, qui est en fait la molécule de référence de tous les auto-bronzants, ou en tout cas de la plupart. Et je vais laisser justement Fatima Ndiaye, qui est chef de projet recherche et développement chez Typology, nous expliquer un peu tout ça.
Dans les années 90, on a commencé à associer le DHA à un autre actif qui s'appelle l'érythrulose. Et l'association des deux fait un effet bronzage progressif. Parce que le DHA, lorsque tu l'appliques sur la peau, ça fait un effet orangé très marqué. Là où l'érythrulose donne des tons beaucoup plus marrons et beaucoup plus naturels. Et l'association des deux, donc on a l'activité du DHA très rapide, l'érythrulose qui est très lente, fait qu'on a un effet progressif et pas un bronzage qui survient d'un coup et après, pas du tout effet naturel.
On ne sent pas Halloween, quoi.
Exactement, voilà. C'est ça.
Pour les peaux très blanches comme la mienne.
Oui, ouais, bah. Donc en fait, c'est vraiment l'association des deux qui fait cet effet progressif et naturel.
Donc en conclusion, comment est-ce qu'on applique ce type de produit?
Eh bien, Fatima préconise un rituel assez précis, gommage, quelques gouttes de sérum dans sa crème et on complète avec de l'huile de buriti qui est naturellement colorée et riche en caroténoïdes pour un joli teint sans impacter la couleur de la peau.
Très bien, merci beaucoup Philippine pour cet éclairage qui va illuminer notre teint, c'est certain. On va maintenant se tourner vers vous et d'ordre du tour. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef pour le magazine Elle et vous avez un dossier brûlant à nous soumettre.
Ben on a chaud comme mon sweatshirt pour ceux qui nous voient sur les,
sur
les réseaux. C'est un petit lapin qui n'a rien à voir avec ma sexualité, je le précise. Non, plus sérieusement, ces dernières années, on a beaucoup parlé de libération de la parole des femmes, notamment dans un contexte très sérieux, très grave du mouvement MeToo, hein, lié aux violences, mais aussi, et fort heureusement, en matière de plaisir sexuel. Mais aujourd'hui, évidemment, ce qui est génial, c'est que dans la foulée, c'est aux hommes de se livrer sur le sujet. Hein. C'est vrai que leur sexualité, elle est souvent planquée sous le tapis ou au fond de leur slip, et souvent tabou. Pourtant, le garçon est un être sensible comme un autre. Et secoué par ce mouvement sociétal de fond, les garçons, eux aussi, se mettent à se raconter un peu plus dans leur intimité et surtout dans leur vérité. D'où le succès notamment du podcast On The Verge, qui est lancé par une fille qui s'appelle Anne-Laure Parmentier en 2019. Beaucoup de gens connaissent
Philippine
Hochatel. C'est devenu un livre qui est un véritable panorama de la sexualité masculine, qui a été évidemment chamboulé par le porno depuis des dizaines d'années, mais aujourd'hui par les applications de rencontres et par les réseaux sociaux.
Alors justement, concrètement, Edouard, est-ce que vous avez des témoignages ou des conseils à nous faire partager?
Il suffit d'ouvrir en grand le magazine dont vous avez parlé, le magazine de Elle, auquel je participe, hein, qui sort en kiosque aujourd'hui. Vous pourrez découvrir plein de témoignages de garçons qui ont accepté de se raconter. Je vais vous faire un petit florilège. Donc, premier garçon, Cad, sans mon jeu de mots, 49 ans, je voulais une union libre. Donc, Cad s'exprime, dit « Je voulais pouvoir faire l'amour avec d'autres, car je séparais l'amour et le sexe. Mais la mère de ma fille ne l'a pas compris. J'ai voulu être honnête avec elle, car mon bien-être passe par une libido épanouie. Depuis 5 ans, j'ai une relation suivie avec une femme avec laquelle je ne vis pas, mais qui, elle aussi, pratique l'amour libre. Et l'idée que l'on ait des aventures sexuelles à côté ajoute un certain piment à la nôtre. Moralité, bien tout simplement, il faut assumer qui l'on est. Peut-être pas attendre 49 ans pour passer à côté d'une certaine forme de sexualité qui est fondamentale pour vous, sans avoir honte et sans tricher. Parce que souvent, les hommes, vous savez, c'est des petits menteurs, les garçons. Et en fait, on se rend compte que la vérité permet souvent d'obtenir beaucoup plus de choses que le secret en matière de sexualité.
Est-ce que vous avez un autre exemple, Edouard, de libération de la parole masculine sur la sexualité?
Tout à fait. Alors, c'est un témoignage de Grégoire et non pas Edouard, 57 ans, qui dit « J'ai appris à la masturber. J'ai eu une opération qui a déréglé ma libido, dit-il. Un soir, elle a fait une allusion de manière subtile, me faisant comprendre qu'il était douloureux pour elle de faire un croix sur sa sexualité, mais qu'elle n'était prête à explorer aussi
les deux en même temps.
D'autres manières de se faire plaisir. Un mois plus tard, un matin, j'ai commencé à la caresser. Je l'ai laissé guider mes doigts, j'ai appris à la masturber. Cela m'a redonné un certain pouvoir et d'une certaine façon, une forme de virilité. Virilité, le grand mot, la grande question chez les garçons. Donc l'enseignement à retenir, c'est que loin des injonctions à la performance, hein, qui polluent souvent le cerveau et le zizi des garçons, il existe bien des manières de se donner du plaisir, à condition évidemment d'être à l'écoute de l'autre, d'oublier cette question justement de la performance pour devenir un aventurier du corps, du sien et de celui des autres.
C'est intéressant tous ces exemples que, enfin, les hommes, qu'on sache ce qu'ils ont en tête.
Vous en voulez encore?
Ah oui, on en veut encore un dernier.
Allez, Gustave, 35 ans, j'ai toujours été attiré par les garçons. Ma première fois, c'était avec une fille à l'âge de 17 ans. J'ai vécu une grande histoire d'amour avant d'en autre de 20 à 27 ans, également avec une fille. À la fin de cette relation, je me suis autorisé à accepter mon homosexualité. Un soir, je suis tombé sur un très beau garçon dans un bar qui m'a proposé de le suivre chez lui. Cela s'est fait beaucoup plus facilement que je ne l'imaginais. Depuis 3 ans, je vis avec Max qui a 2 ans de plus que moi. Nos rapports sexuels sont à la fois très intenses et complices. C'est la clé de notre histoire. Enseignement à retenir, c'est bien sûr d'être à l'écoute des autres, mais déjà à l'écoute
de soi.
Il faut évidemment se connaître en faisant fi des tabous qui gangrènent parfois votre sexualité. Et puis, il faut évoluer aussi dans la vie. On peut changer de sexualité, on peut changer de partenaire, mais aussi de forme de sexualité au fur et à mesure d'une vie et au fur et à mesure des rencontres, évidemment.
Bon, et enfin, dans cette tendance des hommes qui assument tout, vous avez un livre à nous conseiller.
Oui, il y a un livre formidable qui sort ces jours-ci aux éditions Alary Éditions, qui s'appelle « Apprendre à faire l'amour », qui est écrit par un garçon que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Alexandre Lacroix, qui est écrivain, philosophe, directeur de la très sérieuse revue Philosophie Magazine, et qui ne propose rien de moins qu'une révolution des clichés qui entravent et limitent nos sexualités. Hein, au final, c'est une ode pleine de vitalité à la liberté sexuelle, à l'égalité, à la fantaisie entre adultes, consentant bien évidemment, sans excès de morale ni de démagogie avec l'air du temps. Voilà, c'est chaud et intelligent.
Et à votre avis, Edouard, pourquoi les hommes se sont mis à parler enfin? Il y a eu un élément déclencheur ou est-ce que c'est nous, les femmes, à force peut-être nous-mêmes de nous raconter, qui avons inhibé cette parole des hommes?
Je crois que ça fait partie d'un mouvement de d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est vrai que souvent, les femmes ont eu besoin de ce mouvement, de revendiquer leur sexualité, de parler de leur propre sexualité à elles, et pas une sexualité forcément au service des hommes. Et puis dans ce mouvement assez positif, les garçons se sont sûrement dit, ben nous aussi, on a des choses à dire, elles sont pas forcément triviales.
Et on a envie de les entendre.
Et on a envie de les entendre, et les femmes sont prêtes à les entendre. Et puis aujourd'hui, il y a aussi un mouvement qui fait que la sexualité aujourd'hui est plurielle, et pas forcément binaire. Et comme on l'a vu dans les témoignages, ça peut passer par plein d'autres choses que le papa-maman classique.
Vous voyez ce
que
je veux dire ? Papa dans maman.
Papa dans maman, puis le quand fabuleux. Tout va bien, voilà quoi.
On va arrêter là.
Eh bien, merci. J'ai toujours l'impression que je parle de sexe quand t'arrives.
Bah, oui, c'est Romain Desarbes.
Toujours.
Romain Desarbes qui est tout rouge quand même.
Voilà. Je m'éloigne du micro de peur qu'on pose une question.
Voilà, ouais. Pas, pas celle-ci en tout cas, merci en tout cas.
Je fais le coup chaque semaine, je suis désolé.
Merci en tout cas, Edouard. On vous retrouve très bientôt avec vous pour d'autres bons conseils. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez passé une heure agréable en notre compagnie. Nous serons de retour demain dès 11h. Et Mélanie, c'est quoi le programme de demain ?
Eh bien ici, vous le savez, on parle souvent d'amour, mais cette fois-ci, on va se pencher sur l'amitié, ami de cœur, ami ennemi ou alors meilleur ami pour la vie. On va se demander si l'amitié est indispensable à notre bonheur, si elle est nécessaire à notre bien-être psychologique et surtout comment entretenir ces liens.
Ça risque d'être passionnant, mais pour le moment, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Quel est le programme ?
Le programme d'Europe Midi, on va parler du premier tour des législatives, c'est dimanche. Le duel Macron-Mélenchon s'est installé. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi parle-t-on autant de Jean-Luc Mélenchon ? On va en parler, en débattre avec vous, vous appelez le 3921. On va parler également de la sécurité en zone rurale, parce qu'Emmanuel Macron est dans le Tarn, à Gaillac, pour un déplacement sur ce thème. Si vous habitez à la campagne, vous appelez le 3921 et vous témoignez. Voilà le programme, on sera également avec Jérôme Béglé, le patron du Journal du Dimanche, et avec Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1.
Eh bien, merci beaucoup, Romain. À tout de suite.
À tout de suite.